Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 9 mai 2023. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, condamné à 6 mois avec sursis dans un procès en appel, menaçant son éligibilité à la présidentielle de 2024. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, l'ex-chef rebelle et ex-premier ministre ivoirien en exil, n'exclut pas d'être candidat à la présidentielle de 2025. Au Burundi, l'ancien tout-puissant Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a comparu hier devant un tribunal. En RDC, les recherches de disparus continuent plus de 4 jours après des inondations qui ont déjà fait environ 400 morts. La guerre continue de faire rage au Soudan alors que les négociations piétinent en Arabie Saoudite. Le Canada hausse le ton face à Pékin et expulse un diplomate chinois. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, annonce des discussions ce mardi sur la crise migratoire avec son homologue américain Joe Biden. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Sénégal, une cour d'appel de Dakar a condamné hier l'opposant Ousmane Sonko et candidat à la présidentielle de février 2024 à 6 mois de prison avec sursis, alourdissant sa peine lors d'un procès en appel pour diffamation. Cette peine est largement perçue comme le rendant inéligible pour 5 ans. Cependant, une part de doute subsistait lundi soir quant à son effet sur la candidature de M. Sonko, l'opposant pouvant toujours se pourvoir en cassation. Il a été reconnu coupable de diffamation envers l'actuel ministre sénégalais du Tourisme. Ousmane Sonko avait évoqué un détournement présumé de 29 milliards dont serait coupable celui qui était alors ministre de la Jeunesse. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagué.
Ousmane Sonko a été condamné à une peine de 6 mois avec sursis et a payé 200 millions de dommages et intérêts pour diffamation et injures publiques à l'encontre du ministre sénégalais du Tourisme. La cour d'appel a ainsi partiellement infirmé la décision prononcée en première instance où l'opposant avait écopé de 2 mois avec sursis et d'une amende de 200 millions de francs CFA. La cour d'appel de Dakar a également fixé la contrainte par corps au maximum et ordonné la publication de la décision de justice dans 5 quotidiens d'information. Cependant, il faut noter que l'opposant Ousmane Sonko bénéficie de 6 jours pour se pourvoir en cassation et ainsi suspendre l'exécution du verdict en appel. Quoi qu'il en soit, ce verdict est moins lourd que ce qu'espérait le parquet qui avait requis une peine de 2 ans, dont 1 an ferme. En plus de cela, le procureur avait demandé à ce qu'un mandat d'arrêt soit décerné contre Ousmane Sonko. Pour justifier son réquisitoire, il avait indiqué que le mis en cause devait être reconnu coupable des faits de diffamation, de faux et usage de faux et d'injures publiques. De leur côté, les avocats du ministre sénégalais du Tourisme, Mamba Ignan, avaient demandé des dommages et intérêts à hauteur de 29 milliards de francs CFA. Le verdict est certes loin des demandes du parquet et de la partie civile, mais il met en suspens la carrière politique de l'opposant Ousmane Sonko. Ce dernier ayant perdu son éligibilité pour 5 ans au sens des articles L29 et L30 du Code électoral sénégalais. Seul issu devant lui, un pourvoi en cassation qui lui garantirait la suspension du présent verdict en attendant que la Cour suprême infirme ou confirme définitivement le jugement en appel. Seydina Abagué pour VOA Afrique, Dakar.
Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, en exil depuis 2019, a affirmé lundi sur sa chaîne YouTube, après plusieurs mois de silence, qu'aucune raison ne l'empêchait d'être candidat à la présidentielle de 2024-25. Monsieur Soro a répété que selon lui, ni la prison ni l'exil ne sont un frein à une carrière, à un destin politique. Il a appelé son parti à travailler sur le terrain afin de relever le défi présidentiel. Déjà en exil, Monsieur Soro avait été condamné en juin 2021 à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire visant à renverser en 2019 le régime de l'actuel président Alassane Ouattara, son ancien patron. La dissolution de son mouvement avait également été demandée par la Cour. Au Burundi, selon des témoins et une source judiciaire, l'ancien tout-puissant Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a comparu lundi devant un tribunal où il est accusé de saper la sécurité intérieure de l'État, le bon fonctionnement de l'économie nationale, d'enrichissement personnel et aussi de détention illégale d'armes et insultes au président. Lors de l'audience, son placement en détention provisoire à la prison Ngozi, dans le nord du pays, a été prolongé, a précisé une source judiciaire qui a aussi requis l'anonymat. Quelques jours avant le limogeage de M. Bunyoni, le président Évariste Ndayishimiye avait dénoncé dans un discours des velléités de coup d'État de la part de ceux qui se croient tout-puissants et tentent de saboter son action. Dans l'est de la République démocratique du Congo, familles et secouristes ont continué hier de fouiller les décombres à la recherche de disparus après des inondations meurtrières. L'ONU et les ONG appellent à l'aide pour les sinistrés Nani Talani.
Le bilan provisoire est d'environ 400 morts, d'après l'administrateur du territoire de Kalehe, où se trouvent les villages sinistrés. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a confirmé ce bilan sans préciser le nombre de disparus. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires estime que près de 3000 personnes ont perdu leur maison. « J'ai perdu 12 membres de ma famille, j'ai enterré jusqu'à présent 5 dépouilles et 7 autres sont introuvables », déclare un sinistré, Alpha Safari, dans le village de Bouchouchou. « Nous étions 7 enfants dans la famille, mais je reste seul. Mon père et ma mère sont aussi partis et tous les petits frères se désespèrent à Bouchouchou, un autre rescapé. » Selon le chat, les besoins immédiats sont des fournitures pour garantir des enterrements dignes et sécurisés, des soins médicaux pour les sinistrés et les blessés, de l'aide alimentaire pour tous les sinistrés et des abris pour les personnes qui ont perdu leur maison. L'ONU et les ONG ont activé leurs équipes d'urgence.
Au Soudan, les combats ont fait rage lundi à Khartoum et dans d'autres régions du pays entre les camps des deux généraux rivaux. Pendant ce temps, les négociations sur une trêve entre leurs représentants piétinent en Arabie Saoudite. L'ONG Acled dénombre déjà plus de 750 morts dans le pays et les autorités soudanaises 5000 blessés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit très inquiet de la détérioration de la situation en Haïti, gangrénée par la violence des gangs, prenant simplement note de l'appel répété du secrétaire général à envoyer une force internationale, Jean-Roger Bion.
Dans une déclaration publiée hier, les membres du Conseil de sécurité sont très inquiets de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti. Citant les enlèvements, violences sexuelles, exécutions extrajudiciaires et enrôlement d'enfants dans des gangs armés, le Conseil appelle à ce que les responsables de ces crimes soient traduits en justice. Ils disent prendre note du dernier rapport du secrétaire général Antonio Guterres, dans lequel il répétait son appel à envoyer une force armée spécialisée internationale, mais non onusienne, pour aider la police, dépassée par la violence des gangs, à rétablir l'ordre. Aucune élection n'a pu avoir lieu depuis 2016. Le premier ministre Ariel Henry fait face à des questions sur sa légitimité. Il a été nommé 48 heures avant l'assassinat du dernier président Jovenel Moïse en juillet 2021. Plus de 6 mois après son appel à l'aide, aucun pays ne s'est porté volontaire pour prendre la tête d'une force internationale en Haïti.
Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé hier qu'il allait discuter ce mardi avec son homologue américain Joe Biden de la crise migratoire. Cette visioconférence intervient à quelques jours de la levée de règles sanitaires aux États-Unis qui fait craindre une augmentation des entrées illégales. Eric Manirakidza.
Les sujets abordés seront l'immigration, le fentanyl et la coopération en vue du développement, a précisé le président mexicain. L'administration de Joe Biden entend lever jeudi le titre 42, un protocole strict mis en place par son prédécesseur Donald Trump. La levée de cette mesure fait craindre aux autorités des deux pays un pic d'entrée illégale aux États-Unis. Mardi, les États-Unis ont annoncé déployer 1500 soldats supplémentaires pour aider à assurer la sécurité à la frontière américano-mexicaine et viendront s'ajouter aux 2500 soldats assistant déjà la police aux frontières. L'administration américaine prévoit en effet de dissuader désormais l'immigration illégale avec le titre 8 qui refusera toute résidence illégale future en cas de passage clandestin. Washington souligne que les migrants et les demandeurs d'asile doivent désormais s'inscrire auprès de responsables de l'immigration de leur propre pays ou de ceux qu'ils traversent.
Le Canada a annoncé hier l'expulsion d'un diplomate chinois accusé par Ottawa d'avoir cherché à intimider un député canadien critique de Pékin, plongeant les deux pays dans une nouvelle crise diplomatique aiguë dont Pékin accuse Ottawa d'être responsable. La Minute Éco, Nanit Talani.
La croissance du Mozambique devrait atteindre 5% en 2023, assure le FMI qui vient de finir des discussions avec Maputo sur la deuxième revue de l'accord de facilité élargie de crédit. La reprise de la croissance sera en partie tirée par les industries extractives, notamment le premier projet de gaz naturel liquéfié dans le Coral South, dont la production a commencé en octobre 2022. Le FMI et les autorités comoriennes sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques et les réformes économiques qui seront soutenus par un nouvel accord de 4 ans d'environ 43 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit. La FEC soutiendra les plans des Comores visant à consolider progressivement les finances publiques, à renforcer le secteur financier et à progresser en matière de lutte contre la corruption. Pour terminer, au Bénin, les agriculteurs utilisent des engrais biologiques fabriqués localement à base de feuilles, de graines de soja séchées et de coquilles d'escargot broyées pour stimuler les cultures. En utilisant des engrais minéraux, par exemple, sur certaines variétés de maïs, les agriculteurs peuvent produire environ 850 kg ou peut-être une tonne par hectare selon la variété utilisée, explique Arnaud Bonou, l'agriculteur qui a inventé l'un des engrais liquides les plus utilisés. Les utilisateurs affirment que les engrais organiques ont un impact plus positif sur les cultures et ne dégradent pas le sol à long terme.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Choc ce soir en Europe avec les demi-finales aller de la Ligue des Champions.
Oui, du haut de ses 14 couronnes continentales, le Real Madrid champion en titre, toise de haut pour l'instant en tout cas Manchester City, au palmarès quasi vierge sur la scène européenne mais qui s'impatiente de renverser la hiérarchie au Bernabeu. Ce sommet contre le Real à Madrid se résume surtout en ce moment à un duel de buteurs. Le ballon d'or Karim Benzema, 35 ans, contre l'un de ses héritiers au poste de numéro 9, l'insatiable Erling Haaland, 22 ans, le Norvégien arrivé l'été dernier à Manchester City, a déjà marqué 51 buts en 46 matchs, toutes compétitions confondues. Il domine le classement des buteurs en Ligue des Champions avec 12 unités. Quant au Français, à la saison perturbée par des blessures, il revient en pleine forme avec 10 buts depuis début avril et un trophée tout frais en plus dans l'armoire, la Coupe du Roi remportée samedi.
Lionel Messi, doublement récompensé, prix Laureus du sport.
L'Argentin a été doublement récompensé lors de la soirée des Laureus du sport. Lundi à Paris avec les prix de sportif de l'année et de l'équipe de l'année avec ses coéquipiers de l'équipe d'Argentine, sacré champion du monde en décembre dernier. Lionel Messi, 35 ans, est le premier à remporter 2 prix lors d'une même édition des trophées Laureus, ont précisé les organisateurs. L'attaquant du Paris Saint-Germain, auréolé dans sa carrière de 7 ballons d'or, avait déjà remporté le trophée Laureus du sportif de l'année en 2020. Mais il l'avait alors partagé avec le Britannique Lewis Hamilton, sextuple champion du monde de Formule 1. Messi était en concurrence pour le trophée de sportif de l'année avec son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, battu avec la France en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar par l'Argentine.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les responsables des radios privées regroupées au sein de l'URPT, l'Union des radios privées du Tchad, demandent à leurs membres d'observer deux journées sans radio, lundi et mardi. Un mouvement pour protester contre la pénurie de carburant qui ralentit le bon fonctionnement de ces médias privés. Le mot d'ordre a été diversement observé par les radios membres de l'URPT, nous dit notre correspondant N'Djamena, André Kotmadjingar.
Cette revendication est purement économique. Les radios, tout comme les médias en ligne, pour fonctionner, ont besoin de l'énergie au quotidien.
Judas Alaoundoum, président directeur du groupe Médial Visionnaire et président du patronat de la presse privée du Tchad, il donne les raisons pour lesquelles son organisation a souscrit à cette action.
Nous avons souscrit à cette revendication pour demander aux autorités de penser un peu au sort des entreprises de presse, parce que sans carburant, sans électricité, il sera difficile à ces organes de presse qui sont, il faut le rappeler, du baromètre de notre démocratie de fonctionner. Nous réclamons de l'énergie pour nos médias, mais aussi nous souscrivons à cette souffrance de la population, parce que même les auditeurs pour suivre la radio ont besoin de l'énergie pour faire charger leur poste récepteur et autres. Donc nous estimons que cette revendication englobe en même temps ce que la population également éprouve comme difficulté, et nous exprimons notre solidarité à cette population qui n'a pas accès au carburant depuis quelques jours.
Le coordonnateur des services de la Maison des médias du Tchad, François Dingames, estime que l'Union des radios privées du Tchad devrait procéder autrement pour se faire entendre.
C'est peut-être la façon de procéder qui n'est pas la façon que j'aurais aimé. Parce qu'une radio n'aime pas le silence, le blanc. C'est une façon de solidariser un peu leur douleur. Mais je me demande, est-ce que l'interlocuteur en face va comprendre ce qui se passe en termes de ce silence de la radio? Peut-être que ça aurait été mieux de choisir une autre façon. Mais quand ça va faire 2-3 jours, et bien là, ça va être vraiment un peu regrettable pour l'URPT, parce que c'est en parlant que les radios obtiennent quelque chose, et pour les radios et pour la population. Mais quand il y a le silence, c'est un silence qui ne dit pas grand-chose à celui à qui il y a revendication à faire.
Jimmy Wishi, vice-président de l'Association des médias en ligne du Tchad, estime pour sa part que la journée silence radio lancée par l'URPT est salutaire puisque, dit-il, la pénurie du carburant a un impact sur toutes les activités, y compris le transport. Il déplore le fait que l'Union des radios privées du Tchad n'associe pas les autres organisations professionnelles à cette action.
Sans carburant, les radios ne peuvent pas fonctionner. Sans carburant, les journalistes ne peuvent pas effectuer des déplacements pour aller faire des reportages et revenir. Sans carburant, c'est la vie qui est complètement à l'arrêt. Donc, en principe, l'IRPT, avant de prendre une telle initiative, devrait se consulter avec toutes les organisations professionnelles des médias et pour qu'une décision soit prise d'une manière consensuelle. Et ça aura beaucoup plus d'impact. Moi, personnellement, en tant que vice-président de l'Association des médias en ligne du Tchad, nous sommes directement impactés par ça. Donc, nous ne faisons qu'apporter notre soutien à l'IRPT.
Certaines radios membres de l'IRPT ont fermé leurs portes. D'autres, en revanche, ont observé ce mot d'ordre à leur manière en instaurant un service minimum juste pour respecter leur engagement vis-à-vis de leurs partenaires. Pour l'instant, aucune réaction du côté du gouvernement de transition, alors que la menace d'une marche pacifique d'une organisation de la société civile pour la même cause a paralysé l'administration publique ce lundi. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Au Cameroun, le plan de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle va coûter 113 milliards de francs CFA. Cette somme est destinée à subvenir aux besoins de près de 3 millions de personnes. Les autorités ont arrêté 4 modalités d'intervention pour les ménages à très faible revenu. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Les ménages bénéficiaires ont été identifiés après l'élaboration d'un cadre harmonisé de l'insécurité alimentaire. Ce document planifie la mise en œuvre de prévention et de réponse à l'insécurité alimentaire, nutritionnelle et pastorale. Bakarou Seydou est spécialiste en sécurité alimentaire et nutritionnelle.
La distribution de cash, 45 000 francs par mois et par ménage durant les 7 mois de la saison. Pour les zones où il y a des problèmes de disponibilité, là, c'est des vivres qui vont être distribués. Dans les zones où c'est possible de faire du cash for all, vous travaillez, on vous donne de l'argent. La troisième modalité, c'est soutenir les ménages victimes des inondations et les petits éleveurs. Et enfin, les zones où c'est possible, faire de la récupération nutritionnelle.
La région de l'extrême nord est l'une des régions concernées par le plan car les populations y font face à la faim à cause d'un climat aride et du manque de céréales. Une ONG locale a offert du mil à cultiver et un grenier communautaire dans certains villages. Samuel Mayora, habitant du village Nom, dans l'extrême nord.
Vraiment, je voudrais dire que ça nous a beaucoup, beaucoup aidé parce qu'avant, on a comme par exemple la chèvre, le mouton pour avoir du mil. On part vendre ça moins cher. Mais cette fois-ci, avec l'arrivée des céréales, la construction de ces magasins, on a plus de ce problème. On cultive maintenant dans notre propre champ. Tu viens, tu prends un sac, peut-être deux sacs, par après, tu ramènes ça avec un petit intérêt seulement. Maintenant, nos enfants partent à l'école, on n'a plus assez de problèmes.
Ce plan va coûter 113 milliards de francs CFA sur un an. Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural.
Le premier plan a été fait en 2022, qui a été porté par le ministère de l'Administration territoriale. Cette année, nous organisons le deuxième plan qui nous permettra, en nous fondant sur les standards internationaux, d'évaluer les ressources ou les moyens qu'il faut mobiliser pour apporter de l'assistance à cette personne. Le gouvernement a décidé que tant qu'il y aura un Camerounais qui n'aura pas mangé à sa faim, notre mission ne sera pas achevée. Donc, cette démarche participe à cette volonté de recherche de solutions pour améliorer le cadre de vie des populations et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
La tâche dit, si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour, et si tu m'apprends à pêcher, je mangerai tous les jours, mais faudrait-il encore que les groupes islamistes et indépendantistes permettent à toutes ces populations d'aller cultiver la terre. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Togo, des élections législatives et régionales sont prévues cette année, mais la date précise n'a pas encore été annoncée. La Commission électorale nationale indépendante a débuté le recensement des électeurs. Les premières opérations effectuées dans la zone 1 s'achèvent avec beaucoup de difficultés selon notre correspondant à Lomé Kossi Wusu.
Malgré la prorogation de 2 jours du recensement dans la zone 1 qui comprend Lomé et les autres localités de la région maritime, plusieurs Togolais, désireux de se faire recenser pour les élections à venir, risquent de rester sur le carreau. Les difficultés rencontrées dès les premiers jours de l'opération n'ont toujours pas trouvé de solution au grand désarroi des populations.
J'ai fait l'expérience, j'ai essayé déjà 2 fois de me faire enrôler, j'ai pas pu. Les opérateurs de saisie sont très 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 lents et nous n'avons pas la rapidité d'exécution au niveau des appareils. Banalement, quelqu'un peut faire 15 à 30 minutes pour un seul enrôlement. J'ai pas eu le temps d'attendre longtemps, je suis reparti.
Adam Raouf est chef opérateur de saisie dans un centre d'enrôlement.
Les soucis qu'on a au niveau des ordinateurs, c'est que les ordinateurs n'arrivent pas à reconnaître certains emplois. Donc on est obligé de demander à certains électeurs d'aller au moins laver leurs mains et revenir. Bon, pour d'autres, après avoir fait le lavage, ça prend. Pour d'autres, ça refuse toujours et on les envoie dans d'autres salles.
À côté, Pierre est un habitué des opérations et pointe du doigt la vétusté du matériel.
Il y a faute de machines également, plus de 4 ou 5 qui se sont stoppées parce que ces machines sont trop vieux. Depuis, pour des élections dans ce pays, on ne voit que ces machines. Pour nous, nous disons que c'est trop vieux. On doit les changer.
Ailleurs, ce sont des problèmes avec l'encre ou les papiers d'impression des cartes qui ne sont pas disponibles.
Disons que hier, ce qui a été marrant pour toute la communauté, que on nous a appris que les papiers qui permettent à ce qu'on établisse les cartes d'électeurs, ces papiers sont finis. Ils sont venus dire aux amis, à la communauté que bon, il n'y a pas de carte, donc le mieux c'est d'attendre du mois où les cartes seront là. On va encore les faire appel.
Malgré toutes ces déconvenues, Kokou, un producteur agricole qui a déjà passé 3 jours à faire la queue, garde toujours l'espoir à quelques heures de la clôture des opérations dans la zone. Moi, j'ai fait le tour 3 fois déjà sans avoir la carte, mais j'ai l'espoir. Notre souhait est que la CENI prolonge encore les délais pour nous autres qui n'avions pas eu nos cartes d'électeurs. Les partis politiques de l'opposition, à l'instar de la dynamique pour la majorité du peuple, demandent que la CENI accorde davantage du temps, au moins 10 jours, pour le recensement dans cette zone 1, afin de garantir la confiance dans le processus électoral. Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Lancé en décembre 2021, le projet de nomination des rues du district d'Abidjan pour moderniser la ville va bientôt entrer dans sa phase active. Il s'agira de faciliter les déplacements de la population et d'attribuer aux rues les noms des personnalités ivoiriennes qui ont marqué l'histoire de leur pays. D'Abidjan, notre correspondante Delphine Boise nous en dit plus.
Conduit par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et financé par la Banque mondiale, le projet d'adressage des rues du district d'Abidjan en abrégé PADA avance. Cependant, quand il s'agit de garder les noms coloniaux que portent les rues ou les rebaptiser, les avis sont partagés. Certaines personnes souhaitent voir enfin les rues, les places et bâtiments publics porter les noms d'illustres personnalités de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique.
Ces boulevards-là devraient en quelque sorte s'adapter à nos réalités, à nos appellations, pour que la population puisse s'imprégner et puis en savoir plus. Comme je l'en pense, on peut dire par exemple Sundiata Keita. Directement, ça reste dans les mentalités.
Partez au plateau. On a donc le boulevard de France. Vous avez l'avenue Nogues. L'avenue Marchand, c'est encore au plateau. Pas un seul Ivoirien.
Voilà, le temps colonial est passé. On ne peut pas valoriser les colons plus que nous-mêmes. Nous avons des zéros. On doit utiliser des noms de ces icônes-là.
Dans cette quête d'identité ou de retour aux sources, d'autres sont moins radicaux.
Bon, les rues qui portent le nom des colonisateurs, c'est pas mauvais de garder l'essence qui est là.
C'est un pan de notre histoire. Les effacer, c'est aussi effacer un pan de notre histoire.
Alphonse Nguesson est le directeur du projet d'adressage au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme.
Le numéro que nous avons là est depuis de l'adresse. Aujourd'hui, le gouvernement a validé les propositions de voies qui ont été proposées par la CAPEC. Lorsque ces noms seront divulgués, en ce moment, ça viendra compléter le numéro qu'elle a là pour constituer l'adresse totale.
La CAPEC est la cellule d'analyse politique et économique logée au Centre ivoirien de recherche sociale. Le gouvernement, au cours du Conseil des ministres du 3 mai, a validé les choix des noms que vont porter certaines rues. 2400 ont été identifiés et seront affectés aux voies structurantes du district d'Abidjan. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
Sur l'ensemble des noms validés, 52% se rapportent à des personnalités politiques, religieuses, traditionnelles, culturelles, scientifiques, sportives et artistique. 48% porte sur des concepts, des valeurs, des faits historiques et sur des dates importantes de la nation.
Le processus est déjà en marche, sans rompre avec le passé colonial. Après Abidjan, le projet pour rebaptiser les noms des rues va s'étendre à d'autres villes comme Yamoussoukro, la capitale politique, Bouaké, San Pedro, Daloa et Korogo. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia au micro, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.